Grâce à cette vision, je découvris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais, s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, il se crée lui-même une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'à ce qu'il prenne conscience de la vérité de l'existence. Tous les problèmes liés à une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. C'est seulement l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui crée une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice, laquelle imprègne l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal, être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence, gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances, un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, en bon ou en mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra vers lui dans la mesure où il aura donné aux autres. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient tôt ou tard sous une forme ou une autre. Mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil. Des pensées fortement empreintes d'émotion chez un homme sont des semences de conscience plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucune possibilité pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et il crée pareillement avec son imagination. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice. Elles rejoignent l'énergie ou nature même du Père, croissance, nutrition, physique, mentale ou spirituelle, guérison, satisfaction des besoins, dans un système d'ordre et de loi. Comment mettre en mots le feu intérieur, la lumière et l'éclat transcendant de ma joie et des puissants sentiments d'amour qui habitait tout mon être et le gonflait si intensément que je criais sous la pression de mon cœur et de mon esprit. Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'ils allaient dissoudre ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime, de la réalité, de la source de notre être, de la vraie nature, de la création et de l'humanité, je fus élevé en esprit. Mon corps devint aussi léger que l'air. À cet instant, tandis que j'étais ainsi élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais presque devenu un être divin. J'expérimentais un degré élevé de la nature de la puissance créatrice Père en moi. Je ressentais sa puissante énergie et sa sollicitude bienveillante pour l'humanité entière. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite en toute vérité, « Moi seul connais et ai vu le Père ». Comme je désirais alors enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir, débarrasser les hommes de leurs souffrances et de leurs misères. Je rêvais de les libérer de leurs craintes d'un Dieu vengeur totalement irréel. Lorsque je reviendrai pour leur annoncer la vérité, avec quelle fougue je mettrai l'accent sur la réalité de l'amour parfait de la puissance créatrice Père qui pourvoyait à leurs moindres besoins. Il leur suffirait de demander, chercher, frapper, et leurs besoins, quels qu'ils fussent, seraient satisfaits. Avec quelle joie je leur annoncerais la bonne nouvelle. La rédemption de la souffrance était à leur portée si seulement ils voulaient bien purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être humain manifesté. Ce devrait être simple, pensais-je. Il suffirait qu'ils aient la compréhension et la maîtrise d'eux-mêmes. Me voici descendu vers vos niveaux vibratoires pour me replacer dans l'état d'esprit qui fut le mien dans le désert. Essayez, je vous prie, de pénétrer mon état de conscience d'alors, vous comprendrez infiniment mieux mon récit. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront évidentes. Elles vous paraîtront une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si par ailleurs vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification à vos yeux. Mais revenons à mes dernières heures d'illumination. J'étais là, dans le désert, totalement conscient que l'homme crée lui-même, involontairement, la barrière qui l'empêche d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père. J'avais à présent hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tant pitié. C'est néanmoins à regret que je quittais cet endroit sanctifié où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. Mais quel futur merveilleux m'attendait! Je traverserai toutes les cités, les villes et les villages et annoncerai la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrerai. Le royaume des cieux, où disparaissait toute maladie, où tout besoin était satisfait, se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un, maintenant que mon esprit était purifié de mes anciennes croyances et pensées, je dirigerai la guérison sur leurs maladies et leurs vices. Je leur apprendrai comment soulager leur misère. Quand la conscience Père en moi diminua, je revins graduellement à la conscience humaine. Je me rendis compte que j'étais tenaillé par la faim et que je revenais à mon conditionnement humain. Mes réactions, face à mes 6 semaines d'expérience, se modifièrent. Ma conscience du moi et mes envies reprirent le dessus. Quoi ? C'est à moi que sont arrivées ces choses incroyables et tellement inattendues, exultai-je ? Il m'a été donné de recevoir la connaissance au-delà de ce qu'aucun homme a jamais reçu. Je jubilais en réalisant qu'enfin, mes doutes et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels s'avéraient justifiés. J'avais raison, après tout. Qui eût jamais cru que l'esprit humain pouvait être aussi créatif, qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se matérialiser dans le domaine du visible? Je réalisais que Moïse avait dû en savoir quelque chose, car il avait accompli des faits extraordinaires quand les Israélites étaient dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites jusqu'alors maintenus en esclavage en Égypte. Je pouvais maintenant retourner auprès des miens et les libérer de l'autorité rigide de leurs anciens. La faim me tenaillait. Il me vint à l'esprit que je pourrais changer des cailloux en pain pour apaiser mon besoin de nourriture, puisque la puissance créatrice Père agissait à travers mon esprit et que de ce fait, tout dans l'univers obéirait à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait des pierres en pain lorsque quelque chose me retint brutalement. Il me vint fortement à l'idée que la conscience créatrice Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction de tout besoin, de sorte que je pouvais apaiser ma faim en le demandant au Père. Je réalisais que si le petit « je », le « moi » humain dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice Père et moi-même et que tout ce que je venais d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur. Je m'empressai de demander à la puissance créatrice Père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandais que ma faim soit soulagée par le moyen le plus approprié. Immédiatement, la faim disparut et je sentis une onde d'énergie traverser tout mon corps. Ainsi, j'étais la preuve que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était bien la réalité, non un produit de mon imagination dû au temps de jeûne et de solitude dans le désert. Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais sentiers qui menaient à la sortie du désert. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, à l'air doux et avenant. Il me salua chaleureusement, s'alarmant de mon apparence hirsute et de mon air décharné. Amicalement, il me fit asseoir sur un rocher et partagea sa viande et son pain, délicieux, avec moi. Je me demandais d'où il venait et pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé. En réponse à mes questions, il me sourit simplement et ne parut nullement surpris quand je lui racontais avoir passé tant de jours dans le désert que j'en avais perdu la notion du temps. Je lui expliquai comment la vraie nature du Créateur du monde ainsi que les vraies lois de l'existence m'avaient été révélées. Il ne fit que sourire et approuver de la tête. Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, lui dis-je joyeusement. Je pourrais les guérir et les débarrasser de toutes leurs maladies, de tous leurs problèmes. L'étranger répliqua tristement, « Cela prendra des millénaires. » J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi quand je réalisais qu'il avait disparu. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande et aussi me prévenir affectueusement que ma mission ne serait peut-être pas aussi simple que cela, malgré mon enthousiasme. Sa mise en garde me découragea. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin jusqu'au premier village me parut interminable. Comme une modification de la pensée humaine pouvait facilement changer l'humeur. Il me vint à l'esprit que je pouvais encore prouver la vérité de tout ce qui m'avait été montré en sautant du bord d'un précipice, ce qui aurait grandement écourté mon trajet. Comme j'étais sur le point de le faire, l'idée me vint à nouveau fortement que j'essayais de prouver que ma période d'illumination était réelle. Si j'avais besoin d'une telle preuve, c'est que j'étais en état de doute, et je me tuerais probablement, sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pourrais élever mes pensées vers la conscience créatrice père et demander une solution à tout problème. Avec quelle rapidité j'avais oublié la vérité. Alors je priais, passionnément, demandant pardon d'avoir voulu flatter mes caprices et faire les choses à ma façon. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr pour gravir le sentier escarpé. Je découvris aussi que je couvrais si rapidement de longues distances qu'il me semblait que je survolais le temps. J'étais dans une dimension plus éthérée, je m'élevais au-dessus de l'épuisante dépense d'énergie. La marche devenait si facile qu'elle en était maintenant revigorante. J'exultais à l'idée que j'avais trouvé la clé d'une vie plus abondante. Un peu plus tard, je me sentis tellement à l'aise que mon esprit se mit à vagabonder. Je repensais à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelais aussi sa mise en garde et à nouveau mon ancienne nature reprit le dessus. Je me sentis profondément révolté qu'il ait osé se permettre de prédire le déroulement de ma tâche. Je décidai qu'il ne connaissait rien à mon futur et j'écartais sa mise en garde. Vraiment, pensais-je, avec la connaissance que j'ai reçue, je pourrais accomplir ce que nul homme n'a jamais fait auparavant. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie, je pourrais facilement amasser des biens, faire des adeptes sur mon passage et partager mes connaissances pour leur rendre à eux aussi la vie plus facile. Je pourrais éliminer toute trace de souffrance et de douleur. Tandis que je contemplais les lieux environnants qu'il me serait si facile à présent de visiter, je sentis soudain que je ne faisais plus qu'effleurer la surface du sol. Je m'élevais jusqu'au plus haut sommet d'une montagne escarpée, dominant la région. Le monde s'étalait à mes pieds. Je sentis revenir mon premier enthousiasme. Comme il serait facile de réunir les gens et de leur transmettre mon savoir. Je deviendrais puissant et même célèbre pour avoir délivré l'espèce humaine de toutes ses souffrances et maladies. Je gagnerais l'estime des hommes et leur respect. Je ne serais plus considéré comme un bon à rien. Tout ce que je venais d'apprendre à peine quelques heures auparavant me revint brusquement à l'esprit avec une clarté et une force inouïes. N'avais-je pas appris que la seule manière de prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance en tout ce que j'entreprendrais? Alors je me rappelais que la création travaillait dans le dessein d'accomplir ses propres buts. Le processus d'individualisation susciter certains comportements humains, attirer et repousser, prendre et donner. C'était là une source de grande souffrance dans toute vie, mais n'était-ce pas elle précisément qui forçait les gens à chercher une meilleure façon de vivre pour trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur rôle à jouer dans le plan humain de l'existence. Avais-je le droit d'apporter ces informations privilégiées aux hommes et d'annuler ainsi les effets du processus d'individualisation. Je réalisais que je réfléchissais à partir du centre de mon individualité, mon ego. Or, c'était précisément l'égoïsme qui créait des barrières entre l'humanité et la conscience créatrice père-mère. Je devais donc maîtriser mon centre du désir humain si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon père, ce qui était mon intention sincère. Je continuais mon chemin songeant à ce qui m'attendait et à la façon de surmonter au mieux les impulsions que me dictait ma conscience humaine. Je voulais rester dans le flux de la conscience père, dont je recevrais inspiration, guidance, réponse aux questions que je me posais, pain quotidien, santé et protection chaque jour de ma vie. En fait, je réalisais que tant que je me maintiendrais dans ce flux de conscience père, aucun mal ne pourrait m'approcher. Je recevrais tout ce dont j'avais besoin. Et plus important encore, la conscience père, agissant à travers moi, ferait le nécessaire pour aider les personnes qui avaient tant besoin de guérison et de réconfort. Je devais continuellement vaincre ma révolte contre les dures réalités de l'existence pour écouter la voix intérieure et me conforter à la volonté supérieure du Père. Cette volonté supérieure était amour parfait, entièrement dévolu à mon bien-être suprême. Je réalisais qu'il aurait été insensé de suivre ma volonté propre, qui avait pourtant dicté mon comportement jusque-là. C'est à ce moment qu'il me vint l'inspiration de m'adresser en parabole aux hommes. Ceux qui seraient prêts à concevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. Mais il s'avéra que même mes disciples ne purent se défaire suffisamment des doctrines juives pour comprendre le principe de la conscience et l'activité de la puissance créatrice divine au sein de la création. Elle est restée jusqu'à ce jour un mystère pour tous, sauf pour les gens spirituellement illuminés. Il est difficile pour l'esprit humain d'appréhender pleinement le terme spirituel d'illumination. C'est pourquoi il est préférable de lire ces lettres lentement, de les accompagner de beaucoup de méditation et de prières pour bien les comprendre. Souvenez-vous, à moins de redevenir comme un petit enfant rempli d'émerveillement et de foi totale, débarrassé du fruit intérieur inutile produit par vos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions, délesté également de votre égoïsme, vous ne serez pas à même d'assimiler ces pages comme il le faut. Redevenez ce petit enfant. Défaites-vous de tout votre conditionnement mental passé. Si vous éprouvez de la souffrance mentale, émotionnelle ou physique, c'est uniquement parce que, quelles que soient vos croyances les plus sincères, elles ne vous sont d'aucune aide. Elles ne contribuent pas à votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Vous pouvez faire des choix et demander au Père de vous aider à effectuer les changements. L'aide vous sera sûrement accordée, à condition que vous n'en doutiez pas. Continuez à lire et à assimiler ces lettres. Je vous y encourage vivement. Comprenez bien surtout la puissance de votre état d'esprit. Il résulte de votre programmation totale, consciente et inconsciente. Comprenez encore, car c'est essentiel, que rien de cet état d'esprit humain ne provient de la dimension spirituelle. Il est uniquement terrestre et bien certainement rempli d'idées fausses, de préjugés, de malentendus, de ressentiments, de mémoires enfouies, de blessures anciennes et d'habitudes censées répondre aux aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, y compris vos idées ou croyances religieuses, détermine votre monde, vos relations, vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et misères. Il est même responsable de vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé des fils intérieurs de votre conscience personnelle, pensée, espoir, croyance en la vie, en votre destin, en Dieu. Vous vivez dans un monde de votre propre création. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son propre état d'esprit en fonction de sa personnalité. Si votre état d'esprit ne se développait pas dès la naissance, vous seriez aussi inconscient qu'une statue dénuée de sentiments, de pensées et de réactions. Vous contempleriez le monde d'un regard vide. Même une activité débordante autour de vous n'affecterait en rien votre conscience puisque vous seriez dénué de réactions. Rien ne vous rendrait heureux ni misérable. Même une explosion à vos côtés vous laisserait sans réaction. Sans état d'esprit, il n'y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. La qualité de votre état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la première vérité de l'existence, et je désire que vous la compreniez et la réalisiez en pleine conscience. Tant que vous vivez, votre état d'esprit vous suit où que vous alliez. Vous ne pouvez lui échapper. Jour après jour, il persiste à créer pour vous les conditions de vie déjà expérimentées par le passé. Beaucoup de gens passent leur vie entière à croire qu'ils n'ont pas de chance, Ils se persuadent que ce sont les autres qui sont mesquins, méchants, désagréables et leur gâchent la vie. Ce sont les autres encore qui les agressent, leur créent des difficultés sans aucune provocation de leur part. Mais les autres ne sont pas fautifs. C'est l'état d'esprit de la personne qui attire à elle des circonstances négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Certains ont plus de mal à reconnaître leurs insuffisances que d'autres, qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. La prière sincère attire la conscience créatrice Père dans l'esprit. Silencieusement, dans le secret, elle purifie la conscience humaine de tout ce que celui qui cherche à s'élever veut éliminer. C'est, par nécessité, un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Les schémas émotionnels. Vos schémas émotionnels peuvent tout autant nuire à votre bien-être général que votre état d'esprit du moment. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes des événements, possessions et conditions de votre vie future. Ces outils de création œuvrent dans votre vie que vous le vouliez ou non. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Des personnes peuvent être soumises à des schémas émotionnels indésirables et totalement inconscients, car recouverts en permanence par les émotions du quotidien. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes et répondez-y honnêtement. Nier ces schémas émotionnels, c'est se duper et s'empêcher de vivre dans la joie à laquelle on est destiné. Comment percevez-vous réellement votre vie? J'aimerais que vous écriviez une lettre chaleureuse et pleine de compassion. Exprimez franchement ce que vous ressentez tandis que vous répondez aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie? Ou bien préféreriez-vous cesser de vivre? Si vous choisissez en toute sincérité la seconde réponse, votre attitude face à la vie est négative et vous êtes en guerre contre vous-même à un niveau profond. Vous savez consciemment que vous devez poursuivre votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous, vous aimeriez en finir. Cette guerre intérieure vous empêche d'attirer à vous les expériences que vous pourriez vivre avec un schéma émotionnel positif. Comment vous sentez-vous réellement avec vos proches? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie que vous refusez d'admettre ou dont vous n'auriez pas conscience? Comment vous situez-vous par rapport à votre emploi, vos collègues, vos loisirs, les autres races, etc.? Écrivez tout ce que vous découvrez sur vous et mettez ce document en lieu sûr. Ce travail, fait pour vous-même, est destiné à votre seul bénéfice. Vous ne l'avez pas fait pour être une personne meilleure, plaire à Dieu ou recevoir l'approbation d'autrui. Vous l'avez fait pour ôter vos blocages intérieurs, qui entravent votre développement spirituel et votre bonheur. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous encourage vivement à mettre votre document daté en lieu sûr. Relisez-le dans un an et vous vous réjouirez des grands changements à présent installés dans votre état d'esprit. Vous constaterez aussi que des changements seront survenus dans les circonstances de votre vie. Souvenez-vous que la prière et la méditation entièrement dirigées vers votre Créateur renouvelleront vos forces et votre discernement, lesquels, à leur tour, transformeront vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes. Demandez toujours le bon remède. Laissez le Créateur vous apporter la bonne solution que votre esprit humain ne peut pas même imaginer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance de la guérison que vous recevrez instantanément, quoique votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine pour que vous puissiez l'apercevoir. Rendez grâce pour votre rétablissement rapide et n'en doutez pas. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre conscience que votre prière se trouve maintenant dans la connaissance aimante du Père et qu'il y aura un résultat visible en temps voulu au juste moment. Lorsque j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour l'œuvre avant qu'elle ne fût accomplie. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et racontez aux gens combien vous vous sentez mal ou combien la situation personnelle ou générale est affreuse. Si vous avez demandé au Père Créateur une solution à vos problèmes, qu'ils soient par exemple financiers ou de santé, Quelle insulte vous lui faites si vous continuez à parler de ses problèmes passés. Vous défaites immédiatement l'œuvre que le Père Créateur a entreprise. Si, après votre prière, votre attitude intérieure négative perdure, priez encore et encore jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit et réellement croire que tout est divinement pris en charge à l'instant même. Rendez maintes fois grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Assurément, ils se matérialiseront. Il y a des milliers de personnes dans le monde d'aujourd'hui qui comptent régulièrement sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et témoignent des multiples bénédictions reçues dans leur vie. Abandonnez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Tournez-vous dès maintenant vers le Père Créateur universel, la source de votre être, de votre conception, croissance, développement, nutrition, régénération, guérison, la réponse à tous vos besoins, votre protection dans un système de loi et d'ordre spirituel. Prenez conscience que tout ce travail merveilleux est constructif, ordonné et a sa raison d'être. Vous avez vraiment un esprit maître qui vous soutient, vous, votre famille, vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Empêchez vos pensées de gâcher l'œuvre créatrice divine. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ, j'ai pu accomplir mes soi-disant miracles uniquement parce que j'étais conscient que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il accomplisse son œuvre en moi et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez puisée dans la conscience créatrice Père. Quand votre conscience individuelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison, de soins, de protection, de satisfaction de tout besoin, dans un système bien organisé de lois et d'ordre, pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence puissante s'étendra, par l'intermédiaire de votre esprit, à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos moissons. De même que l'électricité passant par vos mains allume un bec benzène dans un laboratoire, de même, votre rayonnement de force de vie profite à tous ceux qui pénètrent votre champ d'influence. C'est là l'intention première de la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre cœur et votre esprit. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui vous montrer comment le faire. Tout d'abord, examinez dans quel état de conscience j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas de prières apprises, définies. Je demandais simplement ce qui était nécessaire au Père Créateur, rayonnant à travers ma propre conscience. Je prenais fortement conscience de la conscience créatrice Père et visualisais qu'elle était une force dynamique œuvrant et se manifestant dans le monde visible en tant que créativité, intention intelligente, croissance, nutrition, guérison, régénération, protection, satisfaction des besoins, le tout dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience créatrice Père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'ils n'avaient pas foi et espérance en la guérison, leur conscience négative ne s'ouvrirait pas à l'influx de la nature de la conscience Père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que l'œuvre de guérison accomplie par la conscience créatrice Père était vraiment l'amour rendu visible sur terre. Je réalisais encore que toute l'œuvre accomplie par la conscience créatrice Père dans le monde visible était de l'amour manifesté. Et je rendais grâce. Je réalisais que toute la substance de l'univers provenait de la conscience universelle et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice Père était l'ouvrier, qu'elle était éternelle, infinie et que rien si ce n'est l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher d'accomplir son œuvre. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensées humaines. J'étais un canal parfait de l'amour Père, et la volonté parfaite de l'amour Père s'accomplirait en celui qui avait besoin de guérison. Je savais pertinemment que ce qui, dans la conscience de la personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, était alors effacé de son corps. Mais la question était de savoir si sa conscience habituelle ferait ou non revenir dans son corps les maux divinement effacés. C'est pourquoi je disais à la personne qui venait d'être guérie, « Va et ne pêche plus. Sachez-le et croyez-le de tout votre cœur. L'état de conscience qui était le mien lorsque je vivais sur Terre, tout ce dont j'ai parlé dans le développement qui précède, est bel et bien l'état de conscience auquel vous devriez vous aussi aspirer de tout votre esprit et votre cœur. Les illuminations que j'ai vécues dans le désert m'ont permis de réaliser la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur Terre. Suivez mes traces si vous en avez la volonté, et je serai assurément à vos côtés pour vous aider dans votre cheminement. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment réceptif pour cela. Mais si dans un premier temps vous ne sentez rien, n'en soyez pas affligé. En travaillant au changement de votre conscience, je vous assure que vous entrerez en harmonie avec ma conscience christique et que je saurai tout ce qui vous arrive. Sachez que votre raison d'être sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement pour arriver vous aussi au final à contrôler les éléments et devenir un maître. Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions climatiques extrêmes, d'infections, de virus et autres calamités qui actuellement nuisent aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre conscience sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec l'amour Père, alors vous aussi serez protégé divinement et deviendrez un canal d'intention créatrice, de croissance, de nutrition, de protection, de guérison, de régénération, de satisfaction des besoins, de loi et d'ordre. L'amour Père agira dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il agira dans toute personne vers qui vous dirigez sa puissance.